Bonsoir, chers téléspectateurs de Djoliba TV News, et merci de votre constante fidélité au QG de l'actualité. Vous l'aurez compris, et ce soir, j'ai l'immense honneur de vous présenter cette émission, et Oumar Traoré étant empêché. Donc, nous avons au menu de ce débat, de cet énième débat, trois thèmes. Bientôt, une nouvelle compagnie aérienne au Mali, Mali Airlines. Et deuxième thème, nous allons parler de la crise sécuritaire. Et quelle diplomatie, en tout cas, pour lutter, pour une synergie d'action afin de lutter efficacement contre le terrorisme. Et en troisième lieu, nous parlerons de la condamnation du capitaine Moussa Dadis Camara en Guinée. Et avant de commencer, en tout cas, ce thème, nous allons faire un premier tour de table sur le bilan des Jeux Olympiques, parce que, comme vous le savez, le Mali a participé à ces Jeux, en tout cas, avec cinq équipes. Donc, nous allons faire un tour d'horizon. Alors, pour pouvoir décrypter en tout cas ces différents thèmes d'actualité, nous avons trois invités. Amadou Odiallo est journaliste analyste. Monsieur Diallo, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Oh, le plaisir est partagé.
OK. Et en deuxième lieu, comme deuxième invité, nous avons Massiré Diop. Massiré Diop est journaliste à l'Indépendant, le quotidien de l'Indépendant. Monsieur Diop, bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, Abdallah Yattara. Abdallah, il a une double casquette. Il est en même temps homme politique et puis consultant formateur. Monsieur Yattara, bonsoir.
Merci, merci pour l'invitation et
Okay.
salut à mes co-débatteurs.
Voilà. En tout cas, la grosse équipe technique est dirigée par Augustin. Alors, sans plus tarder, nous allons faire un premier tour de table sur le bilan des Jeux Olympiques. Je vais commencer par Abdallah Yattara. Abdallah, le Mali était présent à hauteur de cinq équipes. Alors, et si on vous demande aujourd'hui de nous faire le bilan, est-ce que aujourd'hui on peut dire que le Mali a fait une contre-performance, en tout cas aux Jeux Olympiques de Paris 2024?
Pas du tout une contre-performance parce qu'en réalité, le Mali est habitué à retourner dans chaque discipline au premier tour. Donc, ce n'est pas du tout une surprise. Mais peut-être on espérait beaucoup plus sur les footballeurs. Mais malheureusement pour nous aussi, ils se sont calés au premier tour. Donc, je crois que le bilan est classique. Hein. Donc, c'est toujours le premier tour. Je crois que le Mali, la participation du Mali peut être assimilée à l'esprit même de ces Jeux Olympiques par Pierre de Coubertin,
Okay.
qui dit que le plus important aux Jeux n'est pas de gagner, mais de participer, car l'important dans la vie n'est point le triomphe, mais le combat. Et l'essentiel n'est pas point d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu.
D'accord.
Je crois que l'esprit même du Jeux Olympiques correspond à la participation du Mali. Et on espère vraiment que peut-être le prochain Jeux Olympiques, on aura peut-être choisi des disciplines auxquelles nous pourrons peut-être aller plus loin. Vous savez, nous sommes des Sahéliens et généralement nous sommes toujours sur des courses de vitesse et là ça ne colle pas trop aux Sahéliens. Moi je crois qu'il va falloir qu'on revoie ça un peu. Le Sahélien, c'est un peu peut-être le demi-fond et le fond. Je crois qu'il va falloir que le Mali oriente vraiment les efforts dans ce sens-là et laisser les courses de vitesse qui demandent beaucoup plus de punch physique alors que nous ne sommes pas du tout habitués à ça.
Okay.
Et vivement les prochains Jeux Olympiques pour qu'on puisse aller plus loin dans toute discipline.
D'accord. Monsieur Diallo, est-ce que cette contre-performance est due à l'impréparation? Mais qu'est-ce qui peut expliquer en tout cas cela? Dans cinq disciplines, nous n'avons pas pu avoir même une seule médaille.
Bon, comme l'a dit M. Yattara, c'est... On est habitué à ça. Bon, mais au-delà de la participation, moi je pense que dans ce genre de compétition internationale, ça se prépare. Les fédérations des autres disciplines préparent leur cadre sportif. Mais bon, au niveau du comité olympique, combien de Maliens savent l'existence même du comité olympique? Ça se prépare à ce niveau. Qu'est-ce que le comité olympique malien fait pour que le Mali puisse répondre efficacement au rendez-vous mondial? Et moi, je pense que c'est à ce niveau que tout se joue. Il appartient aux autorités de revoir, je pense, que le mode de gestion de ce comité olympique-là, pour que ça ne soit pas patrimonial. Ceux qui viennent, ils viennent pour des années et pas des résultats. C'est l'une des organisations sportives qui ne fait pas de résultats, mais qui ne sont nullement inquiétés, nullement interpellés. Et ça doit changer, à mon avis, ça doit changer. Ce n'est pas un patrimoine qui appartient à une famille ou qui appartient à un individu. C'est l'argent du contribuable qui est mis là-bas pour permettre à nos athlètes de se préparer. Ça ne peut pas se faire sans l'implication du comité olympique. Le résultat est nul et on s'y attendait. Parce qu'à l'image même du comité olympique, le résultat, on ne pouvait pas s'attendre à mieux.
Oui, mais sauf que si au niveau de l'athlétisme, ça n'a pas marché, on suppose quand même que dans les autres disciplines, il y a moins de problèmes.
Oui, mais
en tout cas, ça n'a pas marché.
Oui, ça dit qu'il y a un coordinateur dans tout ça. Il y a un chef d'équipe qui fait le management. C'est le management même qui ne marche pas. C'est ce qu'il faut revoir en profondeur. Moi, je pense que ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'objectif. Et si on se fixe des objectifs, on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs. Les autres pays, là, ils n'inventent pas la roue, hein. Ils ne font rien, et qu'on ne peut pas le faire. C'est juste une question d'organisation. Et qui organise ? Il y a un acteur qui organise. Si cet acteur est défaillant, le résultat ne peut pas être meilleur.
Monsieur Diop, on constate quand même que le sport ouvrois, qui est le football, et quand tu regardes la performance de nos équipes nationales en football, que ce soit au niveau des cadets, des minimes et des seniors, ce n'est pas quand même aussi mauvais que ça, mais est-ce que cette contre-performance ne va pas écorner l'image un peu de Contini, qui est quand même supposé être le successeur, le légitime successeur d'Éric Sékouchel?
Moi, vous savez, ça m'étonne qu'en 2024, on puisse encore parler de Pierre de Coubertin. Je pense que toutes les équipes qui vont là-bas, ou bien tous les pays qui participent, ils n'ont pas vraiment ça à l'esprit. Parce que c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent de l'État. Donc, ils partent pour vraiment remporter des choses, gagner des trophées, remporter des médailles. Donc, si on reste encore dans cette histoire de Pierre de Coubertin, de l'importance de participer, moi, je pense que ça ne servira à rien, quoi. C'est l'argent qui est jeté par la fenêtre, alors que ça aurait pu servir à d'autres priorités, et Dieu sait qu'on en a. Vous savez, donc, moi, en termes de participation, je pense aussi que ce qui a manqué, c'est le fait de tirer le bilan. Parce que ce n'est pas la première fois que le Mali participe à des Jeux Olympiques, mais est-ce qu'on a fait le bilan des éditions précédentes pour voir les leçons à tirer, pour voir ce qu'il y a à améliorer? Pour moi, on dit que demain, il y a compétition, et paf, on rassemble les gens pour leur dire « allons-y jouer ». Mais quelle que soit la discipline que vous prenez, il faut, comme Diallo l'a si bien dit, de la préparation. Il faut de l'organisation. On ne part pas, on navigue pas à vue, surtout qu'on sait qu'il y a toute une nation qui est derrière ces jeunes gens qui sont partis. Okay. Donc, ils devraient partir vraiment avec beaucoup plus de préparation, qu'on sente qu'il y a un travail qui a été fait. Et comme il l'a dit, il faut prendre des responsabilités. Il faut assumer des décisions parfois, même si c'est dur. Si c'est pour le bon fonctionnement, mais qu'importe, l'affaire n'appartient pas à une personne, ça n'appartient pas à un individu, ça n'appartient pas à une famille, c'est pour tout le pays. Donc si c'est le cas, moi je pense que vraiment il faut sévir, quoi. Okay. Quand ça ne marche pas, il faut faire parler la poudre. Okay. Et puis on change, on passe à autre chose.
D'accord.
Sinon on ne peut pas continuer à dépenser de l'argent pour rien.
Ok. Mais Aïdara, est-ce que ça ne va pas jouer et corner un peu l'image de Contini, la contre-performance de l'équipe de football? Parce que c'est que sûr, il avait, comme on l'a dit, la faveur de pronostic pour succéder légitimement à Éric Sékouchel.
Tout à fait, mais juste avant de revenir à ça, je dirais à M. Diop qu'en réalité, les CIO, le Comité olympique international prend en charge tout. Et il suffit d'avoir un minimum de qualification. Par exemple, pour participer aux 100 mètres, il y a un minimum. Pour participer aux 200 mètres, il y a un minimum. Pour n'importe quelle discipline, là, si le Comité olympique international a des minimums. Donc, l'essentiel, c'est d'atteindre ces minimums. Mais pour le séjour, tout est pris en charge par le Comité olympique international.
Donc l'État ne prend rien en charge.
Rien du tout. Et souvent même, le Comité international olympique aussi repêche même souvent. Vous savez, notre Marine Camara qui nous a présenté en Bosnie n'était pas qualifiée, elle a été éliminée en Indonésie. Mais sur l'intervention de du président du Comité olympique malien, je crois qu'elle a été repêchée. Voyez-vous, donc c'est souvent ces jours, le CIO, c'est la plus grande fédération, je veux dire, c'est toutes les fédérations qui se rassemblent là-dedans. Donc il n'y a pas de prise en charge par rapport, il n'y a pas de l'argent de contribuable, je veux dire, qui est inutilement dépensé, quoi. L'esprit de Pierre de Coubertin existe jusqu'à présent. Et maintenant, effectivement, ça a aussi coïncidé avec une période où il y avait vraiment le Comité olympique malien était traduit en justice pour que Habib Sissoko ne puisse pas se présenter. Mais malheureusement, à la veille même de cette assemblée générale élective, les plaignants ont été déboutés. Donc il a été reconduit encore.
Okay.
Bon, effectivement, pour Conti, ça posait un peu problème. C'était, comme vous l'avez dit, le successeur naturel d'Éric Sékouchel. Et moi-même, je l'ai défendu corps et âme pour ça. Mais à mon avis, lui-même, il a reconnu après qu'il n'a pas amené la bonne sélection. La sélection, c'est lui qui l'a fait. Et je crois qu'il s'est fourvoyé lui-même. à mon avis, on doit pouvoir le remplacer maintenant. Et il ne peut pas être maintenant le successeur naturel d'Éric Sékouchel. Il va falloir, dans un mois, on va rentrer dans les élémentaires de la chaîne, la CAN 2025, début septembre. Je crois qu'il est temps que l'État puisse se pencher sur ça, le département des sports puisse se pencher sur ça, chercher un nouveau sélectionneur, et qu'il soit national ou étranger, pour vraiment prendre en charge les seniors.
Merci.
Moi, je pense que je vais juste ajouter quelque chose. Ce que M. Yatra a dit, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas parce que le Comité olympique international prend tout en charge qu'on se permet franchement de décevoir le peuple à tout moment. L'argent que le Comité olympique international met, c'est des contributions des pays. Donc nous avons notre participation là-dedans. C'est de façon indirecte qu'ils sont financés. Pour ça, ça ne peut pas justifier la contre-performance. La contre-performance, c'est tout simplement un problème d'organisation interne. Conti n'est qu'un élément du dispositif. Conti ne peut pas assumer la responsabilité. Dès l'instant où l'organisation a failli, Conti ne peut pas faire autrement. C'est vrai qu'il a peut-être tout le monde fait des erreurs. Mais le Comité olympique malien est abonné à l'échec permanent. Ça ne peut pas continuer. Okay. Depuis combien de temps, qui se souvient d'une médaille de Mali? Qui? En tout cas, moi, je ne me souviens pas. Bon, ça veut dire que ceux qui sont là pour manager, c'est eux qui sont défaillants. Okay. S'ils le sont, ils n'ont qu'à dégager le plancher. Ils ne sont pas que les seuls Maliens, il y a d'autres gens. Et il a dit, c'est ce où il était en procès. Et qu'est-ce que ses adversaires ont dit? Une équipe qui ne gagne pas. C'est sur cette base-là que ses adversaires se sont battus. C'est une équipe qui ne gagne pas. Et si l'équipe ne gagne pas, elle doit dégager le plancher. Okay. Ils ne sont pas que les seuls Maliens à gérer ce comité. Okay. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas une question de patrimoine. Parce que c'était en fait de ce comité-là un patrimoine familial. Adviendra qu'est-ce qu'il pourra, on est là. Que vous voulez, on est là. Que vous ne voulez pas, on est là. Mais, et les autres Maliens?
Ok, c'est bien compris. Et vous, okay, je crois qu'on peut passer, on peut entrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, le gouvernement de la transition malienne a adopté lors du dernier conseil des ministres des projets de textes relatifs à la création et à l'approbation des statuts de la société d'État dénommée Mali Airlines SA. Alors, pour la porteuse de ce projet qui est Madame le ministre de Transport, elle pense que le Mali est tellement enclavé qu'il faudrait quand même le désenclaver avec... plus de 7000 et quelques kilomètres de frontières, il faudrait quand même désenclaver ça. Monsieur Yatara, selon vous, est-ce qu'il était opportun aujourd'hui de penser à la création d'une compagnie aérienne, alors qu'il y a d'autres compagnies quand même qui sont là, qui assurent la desserte en tout cas des différentes régions, et même le désenclavement intérieur et extérieur du Mali?
Bon, moi, je crois qu'on nous a dit que c'est une recommandation de la réunion annuelle 2023 des services de transport.
Okay.
Mais je crois que cette réunion annuelle des services de transport devrait, à mon avis, faire d'abord l'état des lieux de l'existant. Et à mon avis, une compagnie aérienne aujourd'hui rentre dans le cadre plutôt d'une prestige que d'une nécessité. Voyez-vous, la Comonav aujourd'hui ne peut plus désenclaver le Nord. Pareil pour la régie des chemins de fer Transrail. Et l'état plutôt aussi des routes nationales. Kolokani, Kayi est pratiquement impraticable. Et moi, je crois qu'on aurait dû accentuer l'effort pour améliorer l'existant, et plutôt que de s'aventurer dans une compagnie aérienne. Vous savez, la défense aérienne a existé de 1960 à 1989. Après, en 2005, il y a eu ce qu'on appelle la compagnie aérienne du Mali, qui a pris le nom de Air Mali après en 2009, sous Amadou Toumani Touré, et qui aujourd'hui, aussi en 2012, aussi est parti en faillite, pour raison d'abord d'insécurité dans le Nord et de mauvaise gestion aussi. Donc, il était prévu aussi de créer une compagnie aérienne de G5 Sahel, mais malheureusement, avec le retrait du Mali, des pays de l'AS, effectivement, du G5 Sahel, et ce projet, c'est comme le poussin a été tué dans l'œuf. Moi, je crois qu'aujourd'hui, très honnêtement, on doit pouvoir améliorer l'existant. Et regardez le financement de la route nationale Douanzan-Gao, le financement est bouclé, mais on n'arrive pas à faire les travaux pour raison de sécurité. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit améliorer la sécurité, s'accentuer sur ça, pour que la Comonav, la régie des chemins de fer, puisse encore reprendre service. Okay. Je crois que pour moi, aujourd'hui, la nécessité ne s'impose pas aujourd'hui pour une compagnie aérienne. Il faut juste améliorer l'existant.
Okay.
Et d'ailleurs, le commerce à l'intérieur est tenu par la régie des chemins de fer, par le transport de routiers et aussi par la Comonav. Le transport, la compagnie aérienne, c'est peut-être beaucoup plus le transport des passagers que le transport du fret.
Okay.
Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui s'impose aujourd'hui, améliorons l'existant avant de s'aventurer dans une compagnie aérienne.
Ok. Diallo, est-ce que c'est votre avis aussi? Parce qu'il a évoqué tantôt des raisons sécuritaires. Effectivement, pour ces raisons sécuritaires, est-ce qu'il n'était pas nécessaire de créer une compagnie, ne serait-ce que pour permettre aux gens de se rendre facilement dans les régions?
Absolument, absolument. Par exemple, rallier aujourd'hui Gao, il fallait passer même par le Niger, mais maintenant même cette route-là n'est plus une sécurité. Donc le mieux, et le fleuve aussi n'est plus une nappe de pain, donc le mieux c'est de créer une compagnie. En tout cas, c'est il faut un transport aérien. Maintenant, la question c'est la pertinence et les enjeux. Moi, je pense que la pertinence n'est plus à démontrer. C'est normal, c'est obligatoire aujourd'hui d'avoir une compagnie aérienne qui permet de desservir les régions, en tout cas les plus enclavées, qui sont généralement Tombouctou, Gao, Kidal, même Nioro souvent. Bon, maintenant, les enjeux économiques, c'est que il y a des idéologies qui s'affrontent. C'est là qui pensent qu'il faut les priver, d'autres qui pensent qu'il faut l'État. Bon, moi, je pense que l'un dans l'autre, ça se complète. Parce que les privés, tenir une compagnie aérienne pour des privés, pour des groupes, des intérêts privés, c'est très, très difficile. Et surtout dans le contexte africain, c'est très difficile de réussir. Maintenant, le mixage, c'est possible. Bon, c'est possible de gérer avec le mixage. Mais tout est-il qu'au Mali, vous savez, M. Sissoko, ce qui tue les entreprises publiques, c'est la concurrence déloyale avec les privés. Regarde le cas du chemin de fer, l'argent du chemin de fer. Moi, je suis convaincu que ceux-là même qui gouvernaient, qui sont devenus des transporteurs, ce sont eux-là qui ont tué l'argent du chemin de fer. Parce que faire la route Bamako-Kayes, Bamako-Dakar, la route Bamako-Dakar par le sud, Bamako-Dakar par le sud-est et le sud-ouest, c'est-à-dire qu'en partant par Kayes et en partant par Kenyeba, pour rallier Dakar. Les compagnies de transport qui opèrent sur ce tronçon, ce n'est pas de la mer à boire, ce n'est pas simplement, ce n'est pas tout le monde qui peut se procurer un camion pour faire le transport. Et ça veut dire que c'est ceux-là même qui gèrent, qui sont propriétaires de ces camions. Et ce sont eux qui gèrent. Et c'est pour cette raison. Ce minifère ne peut pas prospérer.
Mais c'est avec la complicité de l'État en ce moment.
Mais c'est ce que j'ai dit. L'État, c'est qui? Ce sont les représentants de l'État. C'est ceux-là qui gèrent l'État, qui sont les représentants de l'État, là, qui sont l'État. Et bon, c'est leur comportement qui définit le rôle de l'État dans le quotidien. Donc, je pense que c'est ça le vrai problème. Il faut que, comme il l'a dit, la Réunion clarifie les rôles, qu'on clarifie les rôles. Quel est le rôle dévolu à l'État? Parce que le chemin de fer, c'est beaucoup de bagages, c'est beaucoup de personnes à transporter.
Et à moindre coût.
Et à moindre frais. Et surtout, les moins 10 ans. Bon, ceux-ci sont sacrifiés au détriment, au profit des plus 10 ans, c'est-à-dire que des opérateurs économiques avec des marchandises et qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Or, l'État, l'un des rôles de l'État, c'est de faire en sorte que le citoyen lambda, le minimum qui n'a pas le minimum, est accès. Bon, en tuant les régies, on a privé les riverains de beaucoup de choses.
Okay.
De beaucoup de choses. Donc, okay. Et ça, il faut que le rôle de l'État soit bien défini, clarifié. Le rôle du secteur privé soit bien défini, clarifié. La complémentarité soit bien définie et clarifiée. Et c'est en cela que ça peut être positif. Sinon, créer pour créer. Ils l'ont dit, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas de sens. Là, il y avait Air Mali, il y a Air Mali sous ATT, a existé. Après, il y a une autre compagnie qui est en train d'opérer. Okay. Mais à qui appartient cette compagnie? Parce qu'après la chute d'ATT, Air Mali a eu des problèmes parce qu'il y a eu un problème de propriété. D'accord. Moi, j'ai été saisi par des dossiers en tant que journaliste pour donner mon avis par rapport à choses ou bien pour aider des choses. Mais je me suis rendu compte que et l'actionnariat au niveau de cette compagnie était trop flou. Trop, trop flou.
D'accord.
Donc, du coup, le président, le gouvernement qui est venu après, difficilement pouvait prendre. Donc, comme il faut faire un état des lieux,
okay,
pour se rendre compte qu'effectivement, quel est l'état de l'ancien et comment faire pour que l'ancien soit soit on l'améliore, soit on l'abandonne. En tout cas, il faut faire l'état des lieux.
Okay.
C'est encore nécessaire.
D'accord. Voilà. Massiré, alors dans un pays où moins de 5% de la population emprunte, en tout cas, ce moyen de transport qui est l'avion, est-ce que vous pensez réellement qu'il était nécessaire de penser à la création d'une compagnie aérienne, alors que, comme l'a dit Yatara, il y a en tout cas d'autres moyens fréquentés par en tout cas une très masse, une très grande population? Est-ce que vous ne trouvez pas ça en tout cas inopportun de créer en tout cas cette compagnie?
Moi, je ne pense pas que ça soit inopportun. C'est, pourquoi pas, si on peut se l'offrir, pourquoi pas.
Okay.
Une compagnie aérienne, si on peut l'avoir, une compagnie aérienne nationale, pourquoi pas.
Okay.
Mais je me dis, face aux priorités, est-ce que vraiment le timing s'y est à cela? Ça aussi, c'est une autre question. Et puis aussi, comme il l'a dit, comme ils l'ont tous dit, le bilan des autres compagnies qui ont échoué, ça aussi, il faut vraiment le tirer avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Et également l'existant, parce que vous savez très bien, comme vous l'avez si bien dit, qui fréquente ou bien qui emprunte les compagnies aériennes. Généralement, ce ne sont pas les plus nantis. Hein. Donc il faut vraiment aller vers là où la population exprime le plus de besoins, c'est-à-dire les routes, les chemins de fer, c'est extrêmement important, et le fleuve, c'est extrêmement important. La Comanave est là, les régies de chemins de fer aussi est là, et pourquoi pas une compagnie même de bus qui sera nationale, pourquoi pas, parce qu'on l'a vu également dans d'autres pays où ça fait vraiment beaucoup de bien aux populations. Donc dans toute action, moi, je pense qu'il faut entreprendre, il faut voir l'intérêt du peuple.
Okay.
Il faut voir l'intérêt du peuple. Si le peuple n'a pas vraiment son intérêt dans une compagnie aérienne, puisqu'il y a d'autres qui font déjà cela, bon, tant mieux. Mais en tout cas, l'existant, il faut l'améliorer. Et puis, il ne faut pas se lancer dans une aventure tant qu'on n'a pas fait de bilan de toutes les initiatives qui sont lancées. Parce que le redémarrage, la reprise des activités du chemin de fer, il faut faire le bilan. La reprise également, la relance des autres sociétés, comment dirais-je, comme la CMDT ou autre, c'est important aussi de faire le bilan. Et ainsi de suite. Parce que se lancer dans une nouvelle, c'est très périlleux. C'est très périlleux, c'est très difficile et c'est très complexe.
Okay.
Donc mieux vaut tout, à chaque fois qu'il faut lancer, c'est bien, parce que peut-être que on peut justifier la nécessité de s'offrir une compagnie aérienne, mais bon, et les autres, est-ce que ça ne va pas être délaissé au profit de cette compagnie aérienne? Et puis les priorités sont tellement nombreuses aujourd'hui, la sécurité, la crise énergétique, les conditions de vie des populations qui deviennent... Tout cela, ça doit être pris en compte avant de lancer une initiative et voir surtout l'intérêt que le peuple a à tirer de ces initiatives.
Ok. Yatara, dans un pays où l'économie a tendance à être libérale, est-ce qu'il s'y est que l'État, en tout cas, se préoccupe en tout cas de la création d'une entreprise? Est-ce que ce rôle ne devrait pas être dévolu au secteur privé surtout? Surtout que nous savons que généralement nos entreprises sont gérées de façon népotique.
En fait, je ne connais pas du tout la forme juridique que prendra cette nouvelle compagnie. Et là, c'est posant c'est moi cette question-là. Mais est-ce que l'État même, si l'État doit prendre ça à 100%, est-ce que l'État même a les moyens nécessaires, financiers nécessaires pour prendre en charge? Non. Moi, je crois qu'en réalité, le problème de cette transition, c'est qu'on ne priorise pas on ne priorise pas les secteurs. Aujourd'hui, très honnêtement, la priorité, c'est la sécurité pour moi. Et aujourd'hui, on est en train de un pays pratiquement en lambeaux divisés par-ci, par-là, où seules les capitales régionales sont sécurisées. Et à partir de peut-être les cercles aussi, mais on est, quand on descend au niveau arrondissement et au village, la sécurité n'est plus à 100%. Tout le monde le sait aujourd'hui. Je crois qu'on doit plus s'accentuer vers la sécurité, vers la maîtrise de la sécurité, plutôt que de se lancer dans cette dépense de prestige-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'a même pas de moyens. Regardez à travers la dernière loi rectificative, on a même tué le secteur privé, où on a transféré, on a fermé beaucoup de chapitres, achat des biens et services, formation et autres, pour transférer 190 milliards au niveau de la défense et 30 milliards au niveau de l'énergie. Ça veut dire pratiquement que le secteur privé est moribond aujourd'hui, alors que le secteur privé, c'est le moteur même de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on sache où l'on va. Et en réalité, ils ont oublié le discours qu'ils ont tenu. Les 18 tours, qu'est-ce qui était à l'ordre du jour? C'était la sécurité et la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, un gouvernement ne peut pas, un régime, disons, ne peut pas amener à tout faire. Modibo Keïta a fait 8 ans, n'a pas pu tout faire. Moussa Traoré a fait 23 ans, n'a pas pu tout faire. Atété, pareil, 10 ans. Alpha Omar Konaté, pareil, 10 ans. Mais il faut savoir faire le temps que tu fais au pouvoir, il faut savoir consolider certains acquis. Et je crois que c'est cette vision-là qui manque à cette transition-là aujourd'hui. Ils veulent tout faire en même temps, alors qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Aujourd'hui, la priorité des Maliens, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Et aujourd'hui, il faut se baser aussi sur les industries industrialisantes pour relancer l'économie. Les industries industrialisantes, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'agriculture, l'élevage, la pêche, les mines aujourd'hui. Et dans un monde où il y a les nouvelles technologies, les formations, et je crois que surtout l'agriculture, l'élevage, la pêche, il va falloir tout recentrer à ce niveau-là aujourd'hui. Okay. Et regarde, l'idée, c'est de lancer dans ces dépenses de prestige. L'Office du Niger, 2 900 000 hectares aménageables. Et jusqu'en 2017, on n'a même pas pu aménager 175 000 hectares.
Okay.
La priorité est là. Les priorités sont là. Le monde peut se développer à partir de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, mais pourquoi s'il lance dans des dépenses de prêts comme ça? Parce que 5% même du trafic voyageur ne couvre pas la compagnie aérienne. Il faut consolider les acquis, faire l'état des lieux des acquis, relancer va élargir les chemins de fer transrail, relancer va la Comanav, et aussi sécuriser les routes nationales pour que vraiment les Maliens puissent librement circuler sur les 1 240 000 km².
Ok. Diallo, est-ce que vous êtes d'accord que au Mali, les autorités de la transition dispersent trop leurs efforts en ouvrant trop de fronts, trop de chantiers, alors qu'en réalité, les ressources financières sont maigres?
Bon, si on regarde d'une certaine façon, on peut être tenté de dire oui. Parce que moi, je pense ça dit que le problème au niveau de cette transition, c'est le management au niveau du gouvernement.
Okay.
Il y a des failles. Le gouvernement manque beaucoup de stratégie, de management et même de vision.
Okay.
À mon avis, là où on se trouve aujourd'hui, il est devenu urgent de revoir l'attelage gouvernemental.
D'accord.
Parce que l'État, ce n'est pas que le président de la transition, le président de la République. L'État, c'est surtout le gouvernement. Et le président se repose sur le gouvernement qui lui fait des propositions et qui conduit les actions au quotidien. Mais malheureusement, si à ce niveau, il y a un problème de cohérence, il y a un problème de stratégie, il y a un problème de management, difficilement on peut être concentré sur des actions prioritaires. Parce qu'on ne sait même pas quelle est la priorité d'abord. C'est le gouvernement qui élabore la priorité à laquelle on doit s'attaquer. Mais malheureusement, le gouvernement aujourd'hui se perd dans ça. Donc moi, je pense qu'il est urgent maintenant de revoir même sur l'attelage de ce gouvernement-là.
Okay.
Et pour qu'on puisse être focalisé sur des priorités. Créer une compagnie, c'est une priorité. Parce qu'il y a des Maliens aussi qui sont dans ces régions-là.
Okay.
Et qui ont des problèmes de mobilité. Donc c'est une nécessité. Mais encore faudrait-il que ça soit bien expliqué.
Okay.
Que ça soit bien porté. Au lieu de se fourvoyer dans des discours inutiles, moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut bien expliquer.
Okay.
Pour que les gens soient... s'approprier ces projets. C'est une nécessité de créer une compagnie. Il y a une compagnie. Je pense qu'il y a une compagnie qui fait
un navet,
voilà, mais qui est privée. Bon, est-ce que là où l'État peut s'aventurer, l'État peut prendre beaucoup de risques parce que l'État a le dos suffisamment large, mais le privé ne peut pas le faire. Donc, parce que c'est des groupes, c'est des intérêts privés, et le privé, tout le monde connaît la philosophie du privé, c'est faire du profit. Et s'il n'y a pas de profit, il ne va pas. Bon, les priorités de populations, qui est forcément la priorité du gouvernement et de l'État, n'est pas forcément la priorité du privé.
Okay.
Donc, parce que lui, il n'est pas là pour le bienfaisant, c'est-à-dire qu'il n'est pas pour la philanthropie, il est là pour faire des affaires, pour faire des bénéfices.
Okay.
Et s'il n'y a pas de bénéfices, il ne va pas s'aventurer. Donc, il faut que quelqu'un joue ce rôle. Ce quelqu'un-là, c'est l'État.
Okay.
Et c'est pour cette raison que l'État est dans l'obligation de créer une compagnie pour répondre aux besoins des Maliens. Mais j'ai dit, la définition des priorités, c'est le rôle du gouvernement. Et la feuille de route qui a été défendue devant le CNT, où est-ce qu'on en est par rapport aux priorités?
Une évaluation doit être faite
et pour que les gens sachent à quel niveau on se trouve pour, en tout cas, dégager de nouvelles priorités. C'est vrai, la priorité, c'est la sécurité. Mais la sécurité sans le développement... Elle n'est pas loin.
Oui.
Parce que c'est le manque de développement qui sécrète l'insécurité.
Okay.
Il y a beaucoup d'attaques qui ne sont pas forcément liées au terrorisme, qui ne sont pas forcément liées au djihadisme.
Okay.
Et un pays, aucun pays, il y a la sécurité zéro dans aucun pays.
Oui.
Donc, mais il faut tout ça là participe d'une bonne stratégie, d'une bonne vision que le gouvernement doit mettre en place.
Okay.
Mais malheureusement, aujourd'hui, force est de reconnaître qu'on le veuille ou qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a des failles.
Okay.
Voilà.
Okay. Et M. Diop, d'aucuns disent qu'il y a d'autres compagnies aériennes qui sont là, qui jouent quand même le rôle de desserte totale des régions. Alors, pourquoi alors créer une autre compagnie alors qu'il y a d'autres priorités qui sont là? Mais si vous avez des conseils à prodiguer au gouvernement, à nos autorités, qu'allez-vous dire?
En matière de conseils, là, je pense qu'ils ont déjà suffisamment
de conseillers.
De conseillers et d'autres même sont là en train de se chercher. Donc, ils ont ce qu'il faut pour ça. Mais je pense que le secteur privé, quand même, c'est important dans tous les pays.
Okay.
Parce que l'État ne peut pas tout faire.
Okay.
L'État peut, par exemple, créer des conditions pour permettre au secteur privé de s'épanouir. Quand le secteur privé s'épanouit, mais le pays aussi va aller très bien. Parce qu'un pays sans secteur privé, c'est quand même pas un pays aujourd'hui.
C'est ça.
Donc les secteurs privés, c'est eux qui sont, c'est lui qui est vraiment en mesure de faire conclure quelques accords, de faire en sorte que les profits rentrent. Mais les profits, oui, c'est vrai qu'ils font du profit, mais ils font aussi du profit pour l'État. Donc tout cela, ça va ensemble.
Oui.
Donc, il ne faut pas tout simplement se dire que l'État doit... Certainement, l'État doit jouer un rôle d'arbitre. L'État doit créer les conditions.
Okay.
Mais le secteur privé pour un pays, surtout dans le monde dans lequel nous sommes, qui est un monde qui a tendance à se globaliser, le secteur privé joue un moteur extrêmement important dans l'économie de tout pays. Donc, c'est important de créer les conditions pour permettre au secteur privé de s'épanouir, parce qu'en faisant cela, l'État aussi aura aussi son bénéfice là-dedans et le bien-être des populations pourra être obtenu.
OK. Donc, nous passons au second thème de notre débat. Et c'est le second thème relatif surtout à la sécurité. Alors, nous avons quand même remarqué ces derniers temps que les attaques, en tout cas, se multiplient dans pratiquement tous les trois États de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina et dans une moindre mesure le Niger. Alors, aujourd'hui, nous nous posons la question, il faut quelle diplomatie pour une synergie d'action afin de lutter efficacement contre le terrorisme, Abdallah?
Moi, je crois qu'aujourd'hui, tout tourne autour de la table de Tizawaten.
OK.
À mon avis, et je l'ai dit, beaucoup m'ont critiqué sur ma page Facebook, mais je le maintiens mordicus que Tizawaten, à mon avis, a été une erreur. C'est une erreur parce qu'en ce sens où on vient de finir avec le dialogue intermalien, avec des milliards injectés dans l'organisation de ce dialogue intermalien, qui, dans sa thématique paix et sécurité, et demande non seulement de négocier avec les mouvements armés, mais aussi d'engager un dialogue doctrinal avec les djihadistes. Donc, ça veut dire que l'État même ne prend pas en compte les conclusions, les recommandations de ce dialogue intermalien. Si au même moment, alors qu'on doit engager un dialogue doctrinal et négocier avec le mouvement armé, si au moment où l'État se permet d'attaquer Tizawaten, disant que c'est le dernier refus des terroristes, et au même moment aussi, on est en train d'organiser à Bamako la charte pour la paix, d'élaborer la charte pour la paix. C'est pas à ce moment aussi qu'il faut engager aussi des combats. Moi, je crois que très honnêtement, je suis pour cette armée-là. Mais aussi, à un moment donné, il faut aussi préserver aussi la vie des militaires.
Okay.
Ça, je tiens beaucoup à ça. Et aujourd'hui, Tizawaten est très compliqué. Parce que tout simplement, tous les djihadistes pratiquement de la zone, et la bande du Sahel, se sont trouvés à Tizawaten pour un peu appuyer le MNLA. Et je crois que c'est à ce moment qu'on doit faire l'analyse. Les renseignements devraient beaucoup jouer ce rôle-là. Et décrypter la véritable situation au niveau de Tizawaten, le renseignement devrait donner toutes les informations à l'armée pour qu'on puisse réellement négocier ou attaquer.
Okay.
Mais je crois que peut-être que les renseignements n'étaient pas au top aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'ils se sont lancés là-dedans.
Okay.
Et que ça a été une véritable catastrophe. Je profite de l'occasion pour saluer la mémoire de ces militaires-là qui sont tombés sous le drapeau national. Et aussi pour les étrangers, les instructeurs russes ou pas, c'est l'autre appellation, je ne sais pas trop, mais paix à leur âme aussi.
Okay.
Et je crois qu'aujourd'hui, Tizawaten, à mon avis, a été une erreur.
Okay.
Et aujourd'hui, il faut engager un dialogue aujourd'hui. Le Mali aujourd'hui a trop souffert de cette guerre-là, de 2012 à aujourd'hui. Pratiquement l'effort de guerre, l'État même, les finances publiques même ne peuvent plus soutenir l'effort de guerre. Raison pour laquelle la loi d'actif, on était obligé d'être de transférer 190 milliards à la défense. Okay. Les finances qu'on trouve souffert de cette guerre-là aujourd'hui. Et où il va, à un moment donné, il va falloir arrêter et repenser d'autres stratégies.
Okay. Diallo, est-ce que le tout militaire est une réponse réellement, même à la crise sécuritaire? Alors, il y a beaucoup d'observateurs qui pensent que le Mali veut, les autorités maliennes sont beaucoup plus, en tout cas, attirées vers l'aspect militaire que l'aspect diplomatique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autres solution à envisager plutôt que de consacrer seulement tous les efforts à l'aspect militaire?
Avant de répondre à la question, je vais faire un devoir de mémoire.
Okay.
Et saluer franchement nos hommes et leurs partenaires russes qui sont tombés à Tenza. Et je profite de l'occasion pour présenter les condoléances à toutes et à tous, civils comme militaires, qui ont été victimes de cette barbarie depuis 2012. D'ailleurs, bien avant 2012. Vous savez, la diplomatie, je suis d'accord qu'il faut de la diplomatie pour résoudre certaines crises. Mais dans le cas du Mali, c'est compliqué. Compliqué pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux économiques.
Okay.
La diplomatie ne peut pas régler ça. Quel est notre problème aujourd'hui? Notre problème, c'est notre sous-sol, la richesse de notre sous-sol. De Nara jusqu'à Taoudeni, c'est le pétrole et le gaz. Kidal, c'est l'uranium. C'est l'or, c'est l'eau, c'est beaucoup d'autres choses. En Songo, c'est le magnésium et beaucoup d'autres choses. À Bourem, c'est le phosphate et beaucoup d'autres choses. Le problème se situe à ces niveaux. Le Mali, en partant, comme d'autres pays francophones, en partant à l'indépendance, ont fait des mauvais accords avec les Français pour leur accorder la primauté de l'exploitation de nos ressources. Tout le problème se trouve à ces niveaux. La diplomatie ne peut pas régler ça. Parce que les Français veulent prendre ce qui nous appartient. Et pas de façon honnête, pas de façon sincère, pas de façon diplomatique, mais de façon malhonnête. En nous imposant une situation d'insécurité pour pouvoir profiter de ça, ne pas payer. Comme ils ont fait avec le Niger. Vous savez, récemment, Orano a fait un déficit de 133 millions d'euros en 6 mois. Ils ont dit dans leur communiqué, c'est là à cause de la situation géopolitique au Niger qu'ils ont fait cette ce déficit. Diplomatie, un ministre de la diplomatie ne peut pas régler ça. Parce que rien ne peut remplacer l'argent si ce n'est pas l'argent. Maintenant, comment se faire profit? Comment faire profit sur nos ressources et nous laisser notre part? Voilà un autre enjeu de la situation. Donc moi, je pense que cette guerre-là, il faut la mener. Et on peut se tromper. Mais il y a des guerres de génération. Qu'on l'amène ou pas, si on ne fait pas attention, on va finir comme le Haïti. Le Haïti a pris les armes pour se défendre, pour acquérir son indépendance. Mais aujourd'hui, voyez-vous l'état de Haïti? Un pays, en tout cas, un pays, personne ne peut dire qu'un pays qui a pris les armes pour acquérir son indépendance n'aime pas son pays. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans cet état, dans cet état-là aujourd'hui? Parce qu'il y a un complot international contre le Haïti. Les Français, les Américains, les Canadiens et les Anglais. Parce que Haïti va donner de mauvais exemples. Notre problème, c'est de donner de mauvais exemples. Parce que ces Touaregs-là ne veulent pas, ils n'ont pas des ressources sous leur sol, ils ont de la technologie, ils ont des gens formés, ils ne veulent pas qu'on forme nos gars, ils ne veulent pas qu'on ait de la technologie pour pouvoir continuer et qu'adviendra ce que Dieu aura voulu pour qu'ils continuent continuellement à exploiter nos ressources. Donc, nos frères ont été pris dans cette manipulation. Qu'on les appelle rebelles, ou bien djihadistes, ou bien terroristes, ils sont dans un, eux-mêmes sont dans un tourbillon, ils sont dans une manipulation, qu'ils ne savent pas. Tenzawaten, l'armée n'a jamais dit qu'elle a attaqué Tenzawaten. L'armée a dit qu'on était en mission de patrouille. C'est la mission de patrouille qui a été attaquée. Donc, mission de patrouille attaquée, forcément, elle va se défendre. Moi, je pense que les renseignements, il y a un problème de renseignement, il y a un problème de coordination. Mais surtout, il y a un problème de partenariat aussi encore. On l'a dit, la diplomatie, c'est vrai, la diplomatie, les partenaires russes, là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que cette situation n'arrive pas? Parce que, qu'est-ce qui est arrivé? Nos gars n'ont pas perdu dans la bataille à Tenza. C'est quand ils se sont repliés, après le succès et le fait, ils sont repliés pour venir sur leur site de repli, ils ont trouvé un dispositif pour les attendre. Qui a informé ces gens-là?
Donc vous remettez en cause notre partenaire russe?
Mais moi, je n'ai pas confiance. Okay. Franchement, je n'ai pas confiance parce que aujourd'hui, l'information au Mali. Qui a l'information au Mali, l'information stratégique au Mali? En tout cas, ce n'est pas les Français.
Okay.
Or, on sait que les partenaires de ces gens-là, ce sont les Français. Et si les Français n'ont pas, qui a donné l'information à l'ennemi que l'armée va se replier dans cette zone pour qu'il aille poser un lapin là-bas?
D'accord.
Voilà.
D'accord. Massiré, beaucoup de gens disent que la bataille de Tinzawaten a permis quand même de comprendre beaucoup de choses parce que on parle même d'implication ou de, si vous voulez bien, de la transposition de la guerre russo-ukrainienne au Sahel. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Vous savez, c'est très difficile parce qu'une guerre, quand elle devient interminable, tout le temps, ça fait appel à d'autres enjeux et d'autres ramifications parfois qu'on ne maîtrise pas. C'est pour cela qu'aller vers des cessez-le-feu, aller vers des accords qui puissent en tout cas faire taire les armes, souvent c'est mieux avant que ça ne prenne d'autres dimensions.
Okay.
Aujourd'hui, les gens le disent, hein, l'Ukraine a ceci, c'est impliqué, mais pour moi ce sont encore jusque-là des arguments qui sont très faibles, même si c'est plausible parce qu'on ne peut rien exclure, hein. On n'a pas la connaissance absolue de ce qui se passe, mais encore une fois, moi je pense que l'analyse... Et c'est extrêmement important. Avant de se lancer dans des décisions, avant de se lancer dans une initiative, il faut tout le temps analyser, contextualiser, revoir s'il n'y a pas de failles et tout ça. C'est bon souvent. Et même si on fait face à un type de menace aujourd'hui très difficile à contrer parce que c'est une menace asymétrique. Donc à tout moment, n'importe où, n'importe comment, n'importe quand, ça peut se réveiller. Donc si jamais on met en place des dispositifs qui conviennent normalement, normalement à une armée organisée, une armée conventionnelle, ça ne marche pas. Il faut aller vers d'autres aspects pour pouvoir contrer un peu cette menace-là. Mais encore une fois, bon, pour moi, Diallo a c'est possible qu'il ait raison, hein, avec ces histoires d'économie. Bon, nous, on ne maîtrise pas ces questions-là, hein, uranium ou pas, or, manganèse ou ceci, cela. Bon, on n'en sait rien du tout. De toutes les façons, on sait qu'il y a une menace qui est là.
Okay.
Maintenant, il faut pouvoir la contrer avant d'en arriver à des stratégies qui nous mènera vers une histoire interminable.
Okay.
Moi, je sais tout simplement, bon, français ou pas, les mines aujourd'hui, si vous voyez, mon cher, les sociétés qui exploitent là, mais c'est des sociétés qui sont connues et on n'a pas vu de Français dedans. Et c'est possible qu'ils mettent en place une insécurité comme ça pour exploiter. Ça, c'est un autre volet. Mais je pense que, en tout cas, ce qui existe là, c'est d'abord ça qu'il faut bien affronter.
Okay.
Maintenant, le reste là, s'il y a complot international ou autre, ça, je pense que c'est à d'autres niveaux. La diplomatie devrait être beaucoup plus active pour lutter contre ça. Et
donc,
moi, je pense qu'il y a eu, un début auquel on a assisté. C'était, les plaintes que le Mali avait contre la France de son implication. Et si on avait peut-être poursuivi jusqu'à ce que ces preuves soient dévoilées, ensuite, je pense que la France sera... l'histoire de la France, on aura fini complètement avec l'histoire de la France. Parce que si vous voyez encore que jusqu'à présent, on est en train de soupçonner son implication, parce que tout simplement, on n'a pas encore dévoilé les preuves qui permettent de dire que voilà son implication, sa complicité est établie, donc vraiment, il n'y a plus rien à faire. Et je pense que c'est le monde entier qui va se mettre contre elle.
Oui,
mais tant qu'on n'est pas arrivé là, c'est encore très difficile. Mais jusqu'à ce qu'on en arrive là, comme je l'ai dit, c'est un autre niveau. Maintenant, ce qui nous concerne là, ce qui est face à nous là, tout de suite là, nous sommes en face des gens que nous connaissons, que ce soit djihadistes, que ce soit rebelles, il y a des Maliens parmi eux. Moi, je pense qu'il y a déjà eu des sessions de dialogue qui ont été initiées, soit pour libérer des otages, soit pour faire cesser les armes dans une localité, soit pour lever le blocus. Mais pourquoi ne pas encore continuer avec ces mêmes leviers, avec ces mêmes ressorts pour aller beaucoup plus. Et comme je l'ai toujours dit, il y a une direction chargée de lutter contre l'extrémisme violent. Quel est son bilan annuel? Qu'est-ce qu'elle a fait pour un peu ramener, pour participer à cette histoire de déradicalisation ou autre pour, comme il l'a dit, le discours doctrinal et tout ça, c'est extrêmement important. On a vu dans d'autres pays où ça a réussi, donc pourquoi pas chez nous, alors que cette direction est censée normalement avoir les leviers nécessaires pour cela. Donc je me dis quelque part, il faut ton ennemi, si tu veux vraiment l'affronter, vois d'abord localement comment il faut t'armer le plus possible. Okay. Et ensuite, le reste viendra.
Oui, je reste avec vous. Et contrairement à Diallo, vous êtes pour la diplomatie. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que depuis 63, nous avons exploré cette voie-là, mais ça n'a abouti à rien et que pratiquement, de façon cyclique, nous avons connu des rébellions et tout récemment le terrorisme. Est-ce que ceux-ci aussi n'ont pas raison de faire une telle affirmation?
Ils peuvent avoir raison, mais encore une fois, regardez un peu ce qui se passe. Tous les conflits au monde que vous voyez, mais ça ne se règle pas par les armes. Même les plus grandes guerres au monde, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ainsi de suite, est-ce que ça s'est réglé seulement par des armes?
Non.
Ils se sont assis à un moment donné pour discuter, parce que c'est ça, là, être une personne civilisée. Nous sommes des personnes, nous ne sommes pas des animaux qui sont tout le temps appelés à se battre, à s'entretuer. Non. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, qu'on discute entre nous, qu'on voie la possibilité vraiment d'avoir un cadre apaisé dans lequel tout le monde pourra trouver son compte. Okay. Moi, je pense que ce dialogue-là, quoi qu'il en soit, il sera engagé. Cette diplomatie, quoi qu'il en soit, elle sera engagée. De toutes les façons, en tout cas, je pense que mieux vaut faire cela tôt avant qu'il ne soit trop tard.
Ok. Yatara, que répondez-vous à ceux qui disent que c'est parce que les pays de l'AS ont fait, en tout cas, des choix, c'est-à-dire qu'au détriment d'autres, on fait, si vous voulez bien, on choisit un camp au détriment d'un autre et que c'est ce qui est à la base, en tout cas, de toutes ces crises que nous connaissons, crises sécuritaires que nous connaissons.
Vous savez, en réalité,
le fait de tourner le dos à l'Occident pour se tourner vers la Russie, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas...
Le Mali s'est mis à dos pratiquement toute la communauté internationale, de même que le Burkina et le Niger. Et je crois qu'un pays, au regard même de la situation économique de ces pays-là, je crois qu'il devrait beaucoup plus aborder une diplomatie de conciliation plutôt qu'une diplomatie de vente en guerre. Aujourd'hui, quand on écoute même le ministre des Affaires étrangères, je crois qu'il a même perdu le verbe en ce moment. Je crois qu'il est plus dans une diplomatie de rue que dans une diplomatie réellement dite. Et je crois que, très honnêtement, le Premier ministre a pratiquement le même discours. Et le président de la transition, je crois qu'à un moment donné, il s'était même engagé dans ce sort de discours-là au Mali, au Burkina tout récemment. Et je crois qu'on doit sortir de ce discours rhétorique-là aujourd'hui qui accuse continuellement les uns, qui accuse continuellement les autres aujourd'hui. On doit prendre notre destinée en main aujourd'hui et affronter la réalité. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup souffert de cette guerre-là. De 2012 à 2014, pratiquement 14 ans de guerre, une économie comme le Mali ne peut pas supporter cet effort de guerre-là aujourd'hui. Et regardez, de la troisième place de économique de la zone franc, on a été retrogradé à la cinquième place. Le Burkina nous a donné en ce moment. Je crois qu'on a trop souffert. Si bien que si on ne fait pas beaucoup attention, on risque d'ouvrir d'autres fronts aussi, des fronts sociaux dans le sud. Et ça sera pratiquement interminable. À un moment donné, il va falloir arrêter, il va falloir aller vers la négociation. Et ça, depuis Kidal. Kidal est tellement symbolique que lorsqu'on a récupéré Kidal, on devrait maintenant partir vers la négociation. Okay. Les 14 emplois ministres ont été aussi récupérés. Kidal a été, y compris Kidal aussi. Mais je crois qu'en ce moment, on est en position de force, il faut engager la négociation. Il ne faut pas qu'à tout moment, on mette aussi la vie des militaires à l'étranger. C'est des êtres humains comme nous.
Okay.
Mais sans renseignement, sans rien du tout, on part s'aventurer dans une guerre et dans une zone traitée qu'on ne maîtrise pas géographiquement. Et surtout, les terrains comptent beaucoup en matière de guerre. Le communiqué de l'État-major a été formel et ils n'ont pas bien maîtrisé le climat, si bien que la tempête de vent qui a soufflé a fait perdre aussi pour l'opposition.
Okay.
Donc, si bien ils se sont retrouvés dans un embuscade et il y a eu trop de morts, trop de dégâts matériels.
Okay.
Et je crois qu'à un moment donné, ce n'est pas une faiblesse pour l'État de négocier. Il faut savoir arrêter avant que ça ne dégénère et que même les positions récupérées puissent qu'on les perde aussi.
Okay.
Là aussi, ces risques-là aussi, là aussi, cette éventualité-là aujourd'hui, parce qu'ils sont maintenant en position de force artisanale. Aujourd'hui, ils ont attaqué aussi un cercle de la région de Kidal aussi, qui était soufflé depuis 10 heures. Et je crois qu'il faut qu'on fasse beaucoup attention. On risque même de perdre les acquis et je crois qu'on devrait engager aussi la négociation.
Ok. Diallo, est-ce que c'est votre avis aussi d'engager les négociations?
Vous savez, les gens.
Militaires.
Les gens parlent de... Même les guerres mondiales ont fini par table. Mais comment? Les belligérants, le principal belligérant a été défait. L'Allemagne a été battue et l'Allemagne a été contrainte d'abdiquer. C'est à ce moment que la table est venue. La table est venue après une victoire. Le Japon, la même chose à la Deuxième Guerre mondiale. Le Japon a abdiqué parce que le Japon a perdu la guerre. La diplomatie, c'est très vrai, c'est vrai dans la guerre. Mais la diplomatie vient après une victoire. Et si on a fait une mauvaise négociation en 2015, l'accord de Bamako, issu du processus d'Alger, c'est parce qu'on est parti à cette négociation affaiblie. Okay. Après la débandade de mai 2014 à Kidal. Okay. Bon, moi je pense que, c'est-à-dire, soit il faut qu'on sache ce qu'on veut, qu'on définisse carrément ce qu'on veut. Où on veut que cette guerre-là qui nous a été imposée par l'Occident à travers nos frères, ou qu'on la gagne, ou qu'on la perde, ou qu'on arrête, qu'on brasse les bras, okay, qu'on baisse les bras et admettre ce qui nous arrive. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec la diplomatie, mais la diplomatie, quand c'est à notre faveur. La mort, il n'y a pas de façon de mourir. Qu'on aille à la guerre ou qu'on reste à la maison, on va mourir dans tous les cas. Il faut choisir, en tout cas, comment mourir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Mali est dans un tournant. C'est pourquoi j'ai rappelé l'histoire de Haïti. C'est mon référent. Le Haïti a pris les armes pour défaire la France deux fois. Ils ont battu la France deux fois. Mais où est-ce que la France a gagné? La France a réussi à faire coaliser les autres contre lui, contre les Haïti, les États-Unis qui avaient des esclaves, le Canada qui avait des esclaves, les autres nations qui avaient des esclaves. Donc si on laisse Haïti prospérer, il va donner les idées aux autres esclaves. C'est ça, c'est à cause de ça. Et le Mali aujourd'hui est dans quel problème?
Ce n'est pas le même contexte.
C'est le même contexte, c'est le contexte géoéconomique. Le Mali est dans quel problème aujourd'hui? En 2000, moi j'étais là, j'étais dans les missions à Djeddah. Le gouvernement du Mali est venu avec un projet de réalisation du barrage de Taoussa. Chercher le financement, pas avec les Européens, pas avec les Américains, mais avec les Arabes. Mais l'AFD s'est déplacé à Djeddah pour demander aux Arabes de ne pas financer le barrage. Ce n'est pas fait à l'absence, c'est fait devant moi. J'étais là, comme journaliste reporter. Deux fois, 2004 et 2008. Le projet secret de Markala. L'AFD est venu au Mali ici pour saboter le projet. Le développement, ça ne tombe pas du ciel. C'est la transformation, avoir la possibilité de transformer ce que Dieu nous a donné.
Okay.
On nous empêche d'avoir cette possibilité. Mais de quoi on va vivre?
D'accord.
Je suis d'accord qu'il faut aller à la négociation. D'accord. Mais quand on veut aller négocier, vous-même l'avez dit, depuis 63.
Aujourd'hui, nous sommes en situation de force.
Depuis 63, on est dans cette situation. Mais comment une famille peut prendre tout un pays en otage?
Ok.
Mais ce n'est pas possible.
D'accord. On est pris par le temps.
On est pris par le temps?
On est pris par le temps. Il ne nous reste plus que 5 minutes. On va passer au troisième thème.
Je voulais juste ajouter que, très rapidement.
Quelques secondes.
Depuis 2013 à aujourd'hui, pratiquement chaque rapport du vérificateur général, c'est à peu près 700 milliards de manque à gagner. Et tout ça, c'est la faute de la France. Tout ça, c'est la faute aux Occidentaux. Il faut qu'on se remette nous-mêmes en cause ici. Si on se remet nous-mêmes en cause ici, on a les véritables solutions.
Okay.
La mauvaise gouvernance, l'insécurité qui prévalait au soir du 18 août, aujourd'hui, continue jusqu'à présent.
Okay.
Il va falloir vraiment changer de paradigme.
D'accord. Merci. Nous passons au troisième thème de notre débat. Et l'ancien président guinéen, le capitaine Moussa Dadis Camara, a été condamné à 20 ans d'emprisonnement pour crime contre l'humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. Alors, quelles sont vos impressions? Quel message, en tout cas, cette condamnation-là envoie? Et à qui?
C'est un peu ce que j'appelle la remise du procès de crime de sang. Il fallait certains droits. D'ailleurs, ça devait bien sortir avec 20 ans. Moussa Traoré, c'était la perpétuité et qui a été transformée. C'était la peine de mort transformée en perpétuité et puis il a été gracié. Dans cette sorte de procès, il ne faut pas s'attendre à des relax. Non, il faut condamner et ça devrait se passer comme ça. Et à l'image du procès crime de sang, moi je ne m'attendais pas du tout au relax de qui que ce soit. Il fallait le condamner, même si après peut-être ils vont grincer certains d'entre eux.
Okay.
Mais le résultat quand même ne me surprend pas du tout. Et il en a pris pour son, pour, pour ce qu'il a voulu lui-même. D'accord. Et je crois que c'est le résultat est là.
Ok. Est-ce qu'il ne faudrait pas tirer chapeau sur la justice guinéenne qui a quand même pu tenir ce procès historique?
Oui.
Et condamner un ancien président et des anciens ministres?
En tout cas, ça a été un travail laborieux et puis un travail bien réfléchi pour aboutir à un résultat, en tout cas, auquel une grande partie des Guinéens s'attendaient.
Okay.
Il s'agit de rendre justice au peuple et faire comprendre aux uns ou aux autres. Ce n'est pas parce qu'on est dans une position aujourd'hui qu'il faut se permettre certaines choses.
Okay.
Il y a demain aussi.
Okay.
C'est un procès pédagogique, comme ça a été le cas pour le président Moussa Traoré.
D'accord.
C'est aussi un procès pédagogique pour les chefs d'État.
Okay.
En activité, qui comprennent que quoi qu'on fasse, la justice des hommes est là, comme la justice de Dieu aussi, et attend toujours okay. tout le monde. Quoi.
Okay.
Voilà.
Massiré, est-ce que ce n'est pas un message fort à l'endroit, comme il a si bien dit, des dirigeants, surtout qui sont en fonction? Et en plus de ça, est-ce que la Guinée n'a-t-elle pas réussi là où la Côte d'Ivoire a échoué, par exemple, parce que la Côte d'Ivoire, quand même, a envoyé Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale?
Bon, vous savez, c'est une histoire de complémentarité. Donc, je ne pense pas réellement que je fasse parler d'échec si nous ne sommes pas en mesure de juger. Comme nous sommes signataires des traités de Rome, on peut bel et bien transférer un citoyen pour qu'il soit jugé là-bas. Donc, là n'est pas le problème. Si on se sent en mesure de le faire, tant mieux. Et je pense que c'est un signal quand même qui vient d'être lancé, comme quoi l'impunité ne va pas perdurer.
Okay.
Hein, et que toujours, quoi qu'il en soit, quelles que soient les dispositions, quelles que soient les mesures que l'on prend aujourd'hui, il faut toujours s'attendre à ce que demain, on puisse rendre compte. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui penser en prenant des décisions.
C'est la fin de l'impunité comme ça?
Non, je n'ai pas dit que c'est la fin de l'impunité, mais c'est un signal fort quand même. C'est un signal très fort qui vient d'être lancé pour se dire que vraiment, il faut réfléchir maintenant à deux fois avant de prendre des décisions, avant de poser des actes. Il faut réfléchir. C'est extrêmement important. Tout ce qui doit être fait, c'est pour que l'histoire, c'est pour qu'on dise que plus jamais cela. Voilà le vrai message qu'il y a à lancer, en tout cas, à travers cette condamnation.
D'accord. OK. Merci. C'est ce qui met fin quand même à ce débat du QG de l'actualité que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Et mes invités étaient Amadou Omar Diallo, journaliste et analyste, et Massiré Diop du journal L'Indépendant, et Abdallah Yattara, consultant et membre du parti Élément. Et merci beaucoup pour votre présence. Et vraiment, je suis très content, très ravi de votre présence. Merci.
Merci à vous aussi.
Okay.
Merci beaucoup.
Alors, l'équipe qui m'a accompagné était composée d'Augustin, de Youssouf Sangaré, de Lamine Kouloubali, de Salimata Ouaidro et de Moussa Aïdra. Merci à la grosse équipe technique et à la prochaine fois. Merci.